Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'était un homme mekoubal, mystique, un activiste communautaire, un philosophe, un possek halakha, il tranchait les dynimes de la Torah, et également un compositeur. Rabbi Shneur Zalman de Liadi fut tout cela en même temps. Mais avant tout, il était le guide spirituel de sa génération. Il créa une méthode pratique pour permettre à chaque juif de se rapprocher de la Torah d'une manière simple. Rabbi Shneur Zalman vécut à une époque de changement, de troubles à l'échelle mondiale, comme la Révolution française, les invasions de Napoléon. Pourtant, sa vie et ses enseignements ont continué à traverser les temps au fur et à mesure de l'histoire. Rabbi Shneur Zalman était le fils de Rabbi Baruch et de la rabbanite Rivka. Il naquit le 18 Elul 5505 en 1745. Il descend de ligne droite du Maharal de Prague. Donc, par transitivité, sa famille remonte au roi David. Le Baal Shem Tov inspira, lors de sa tendre naissance, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, Rabbi Shneur Zalman. Dès sa naissance, il indiqua aux parents de quelle façon il fallait éduquer l'enfant. Il fut remarqué de manière très précoce son assiduité à la Torah, au limud à Torah, à l'étude. Dès l'âge de 1 an, il commençait à parler déjà comme un adulte. Le Baal Shem Tov, contemporain à l'époque, était toujours au courant de l'évolution de cet enfant prodige. Au point où le Baal Shem Tov lui-même venu lui couper les cheveux à l'âge de 3 ans. Et pour la première fois, il le bénit. À l'âge de 5 ans, Rabbi Shneur Zalman était capable de tenir une discussion halakhique, une discussion dans la Gemara de Talmud, et on reconnut en lui un futur Gaon dans la Torah. Dès sa bar mitzvah, les plus grands érudits le déclarèrent apte à discuter de la Torah. Il se maria en 5720-1760 avec la rabbanite Sterma, fille de Rabbi Yehuda Lel Segal et de la rabbanite Beila. Il faut savoir déjà qu'à l'époque, il y avait une dissension au sujet de l'interprétation de la manière de vivre la Torah. Il y avait ce que l'on appelait les chassidim et il y avait ce que les chassidim appelaient les mitnagdim, qui étaient donc opposés à l'enseignement du Baal Shem Tov et par la suite du Rabbi Shneur Zalman. Or, le beau-père de Rabbi Shneur Zalman, Rabbi Yehuda Leib Segal, faisait partie d'une famille de Vistebuk qui appartenait justement à l'autre camp de cette interprétation de la Torah. Malgré cette situation difficile, Rabbi Shneur Zalman s'installa dans la région de Vitebsk, donc pas loin de son beau-père, et fut conduit en première mission à rechercher le bien-être de ses frères juifs. Il s'engagea alors à constituer des colonies agricoles en Eretz Israël également, et s'occuper du bienfait et du confort de ses frères juifs. Ainsi, avec l'argent qu'il avait reçu de son mariage, il acheta des terres et avec l'argent ramassé, il avait réussi à installer de nombreuses familles juives. Il nomma des professeurs et il leur enseigna la Torah. Rabbi Shneur Zalman mit au point alors une idée fondamentale dans la Torah. basé sur les sentiments, l'amour et la crainte de Dieu, qui devait provoquer une réflexion profonde. En effet, il y a deux méthodes pour pouvoir accéder, donc à la compréhension de la Torah. La première méthode était la réflexion totale. Cette réflexion permettait d'arriver à comprendre une certaine petitesse de soi-même et donc une grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et alors venaient les sentiments, l'amour et la crainte. Inversement, la deuxième méthode est basée sur le développement naturel de l'amour et de la crainte de l'homme pour pouvoir avoir accès à la réflexion profonde. En cela résidaient les enseignements de Rabbi Schneur Zalman. Là était le grand questionnement de Rabbi Schneur Zalman. Est-ce que le cœur provoquait l'esprit ou l'esprit devait provoquer le cœur? La question fut remise au Magid de Meseritch, au décès de Rabbi le Baal Shem Tov. Mais le Magid de Meseritch refusa de l'orienter et lui demanda de trouver lui-même la solution et d'en créer un système de compréhension. Et également un système d'orientation dans la Torah. Il fut arrivé un temps où il fallait trancher sur la ville où il allait résider de manière plus longue, la ville où il allait se baigner de l'esprit, Vilna ou Meseritch. Puis, considérant qu'auprès du Gaon de Vilna, il se consacrerait à l'étude, dans laquelle il était déjà versé, il décida d'aller dans le chez le Maguide, afin d'apprendre quelque chose qu'il n'avait pas encore réussi à apprendre, la prière. Lorsqu'il rencontra le Maguide, il comprit que prier n'était pas chose facile, et qu'il fallait réapprendre complètement la notion de prière. Son maître, le Maguide de Meseritch, nomma immédiatement le Rabbi Schneur Zalman en tant que Maguide de Liozna en 1767. Puis il lui demanda de rédiger le Shulchan Aruch, Arav. En effet, Rabbi Schneur Zalman a écrit avec son idée, avec sa chita, un Shulchan Aruch où il trancha tout au long de ce qui avait été déjà réalisé par Rabbi Yosef Karo et le Rama. Il y eut également des passages où le Rabbi Schneur Zalman a montré une spécificité dans la manière de trancher la halakha. Donc on avait affaire réellement à un tzaddik qui était capable, aussi bien dans le domaine du niglé, c'est-à-dire les parties dévoilées de la Torah, que dans les parties nista de la Torah, c'est-à-dire les parties qui étaient plus cachées, comme la chassidoute, puis comme la Kabbalah. Rabbi Schneur Miliadi fonda sa yeshiva en 1772. L'accès était réservé uniquement à ceux qui avaient déjà accumulé d'énormes connaissances dans la Torah, dans les deux parties de la Torah, le Niglé et le Nistar. Il se rendit en 1774 en compagnie de Rabbi Menachem Mendel de Horodok chez le Gaon de Vilna, qui refusa de les recevoir. Il sortit ensuite vainqueur d'une grande confrontation de Minsk en 1783, puis de celle de Choklov. Puis il commença en 1794 les lois de l'étude de la Torah. Et il commença à écrire son système de pensée et exposer dans son œuvre monumentale, le Tanya, la loi écrite de la Chassidoute. D'autres livres suivirent, comme le Torah Or et le Likutei Torah. Ils sont des œuvres qui suivent le déroulement du Parashiot, mais avec un éclairage, justement, de celui de Rabbi Shneur Zalman, d'une chassidoute qui était intellectuelle. Car vous le savez, il existe deux chassidoutes. Une chassidoute basée sur l'intellect, on l'appelle la chassidoute sikhlit, et une chassidoute basée sur les midot, la hava et la irat shamayim. Rabbi Shneur Zalman faisait partie de ces auteurs qu'on appelait les auteurs de la chassidoute sikhlit. Rabbi Shneur Zalman Miyali fut la victime d'une dénonciation malheureuse de ses propres, de sa propre communauté. En 1799, cette dénonciation lui valut d'être arrêté. C'était le lendemain de la fête de Soukhot. En effet, il était responsable en Russie de la collecte de fonds pour soutenir la communauté chassidique d'Eretz Israël, dirigée par Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Or, Eretz Israël était sous la domination turque et la Turquie était l'ennemi de la Russie. Il fut donc emprisonné à Pétersbourg, dans la forteresse de Petropavlovsk. Son incarcération sema le désarroi parmi les chassidim, et sa première réaction fut celle d'écrire une lettre pour leur interdire tout acte de vengeance.
Pour leur interdire tout acte de vengeance,
son incarcération sema le désarroi parmi les chassidim. Et sa première réaction fut celle d'écrire une lettre pour leur interdire tout acte de vengeance contre nous ou Béné et Chala. Différentes mélodies qui ont accompagné la vie de Rabbi Shimon Zalman. Ces mélodies étaient évidemment éprises des différentes évasions intellectuelles dans le monde secret de la Torah. Et donc, chaque ton, chaque élévation de la voix avait son importance. D'où l'importance du chant dans le mouvement chassidique. Ces chants qui accompagnaient non seulement la vie terrestre, mais aussi la vie spirituelle de ces individus. Je voulais également déclarer donc que cette biographie a été inspirée de celle qui a été faite par le Rav Chaim Elul de Créteil et qui m'a aidé à vous donner toutes ces informations. Dans les prochains cours, nous commencerons donc ce Sefer HaTanya, cet ouvrage important, mondialement connu. Nous commencerons par une petite introduction et nous démarrerons l'introduction de l'auteur du Tanya. À bientôt.